Karl Marx s'est rendu célèbre par sa fameuse phrase « La religion, c'est l'opium du peuple ». Il est possible que dans son temps, comme dans le nôtre, il avait raison pour certaines personnes, pour qui la religion n'est rien d'autre que l'opium. Régis Debray, plus tard dans le XXe siècle, en a rajouté encore sur la base de ce que Karl Marx avait dit. Il a dit en 1981, « La religion n'est plus l'opium du peuple, c'est la vitamine du faible. » Cette idée que finalement l'homme n'a pas besoin de Dieu, qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul, et que la religion et tout ce qui va avec, ce sont tous des bricoles pour les faibles, pour les femmes, pour ceux qui ne savent pas gérer leur vie, finalement pour les imbéciles. La religion, c'est l'opium du peuple, disait-il. Et c'est vrai que nous avons toujours humainement cette tendance de montrer notre suffisance, de dire que finalement, nous n'avons besoin de personne, qu'on est des grands garçons et des grandes filles qui sommes capables de se débrouiller tout seuls. On n'a pas besoin de Dieu, on est aussi grand que lui. C'est d'ailleurs le sens du mensonge que le diable avait donné dans le creux de l'oreille à Ève. Souvenez-vous, Genèse, chapitre 3. Vous serez comme Dieu. Et c'est vrai que depuis, l'être humain se prend pour Dieu. Il agit comme tel à bien des égards. Essaye de se faire valoir de toutes sortes de manières. Et on retrouve dans la parole de Dieu le témoignage de plusieurs personnes qui ont réalisé à quel point ils étaient eux aussi pris dans cet engrenage, cette idée de se montrer fort et à la place de Dieu. Regardez par exemple avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens et au chapitre 3, à partir du verset 4. L'apôtre Paul, faisant référence à ce qu'il est, essaie de montrer que lui aussi aurait des lettres de créance à présenter. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, au verset 4, il est écrit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Paul se présente comme le grand personnage, irréprochable, tout à fait dans les normes. « Moi aussi, j'aurais de quoi m'enorgueillir. » Jésus, d'ailleurs, met en scène le même scénario lorsqu'il parle à ses disciples. Regardez dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, où nous retrouvons ce scénario. Jésus présente un scénario imaginaire, mais qui pourrait très bien être réalité, où il présente un pharisien, un homme pieux, et un publicain, un collecteur d'impôts, un collaborateur avec l'ennemi national. Et il met dans la bouche de ce pharisien les paroles suivantes, verset 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Jésus présente les gens de son temps comme ayant cette même mentalité. Ceux qui viennent devant le Seigneur et qui disent « Seigneur, regarde, finalement, je ne suis quand même pas si mal que ça. Je fais tout ce qu'il faut. Je ne suis pas comme ces gens là dehors, ces espèces d'incroyants qui vivent une vie épouvantable. Moi, je suis une bonne personne et j'aimerais qu'on le reconnaisse. » Vous voyez cette prétention que l'on retrouve et que Jésus condamne ici en disant « Mais finalement, ceux qui se disent être des gens de bien, le sont-ils vraiment ?» Aujourd'hui, bien entendu, la chose se présente de manière différente. Mais l'idée est la même. Vous rencontrez aussi, comme moi, des gens qui disent « Mais enfin, moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin de la religion, je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis fidèle à ma femme, je ne vole personne, je suis en bon terme avec tous mes voisins, je n'ai de problème avec personne, je respecte le code de la route, je ne trompe pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je suis une bonne personne, qu'est-ce que vous voulez m'apporter de plus avec la religion? J'en fais plus que ceux qui vont à l'église. Vous entendez ça aussi, si parfois même vous ne l'avez pas pensé vous-même à un moment ou à un autre de votre existence. Et dans ce sens-là, puisque je suis bien, pourquoi est-ce que Dieu ne me sauverait pas comme je suis, puisque je suis si bien que ça? Cette idée que finalement, ceux qui ont besoin de la religion, ceux qui ont besoin de l'Église, ce sont ceux qui n'arrivent pas à ne pas voler, qui n'arrivent pas à ne pas mentir, qui font tout de travers et qui ont besoin qu'on les guide. Ces gens un petit peu faibles, qui ont besoin d'une colonne vertébrale, ou ces gens qui ont besoin de quelqu'un à suivre. Les moutons, donnez-leur un chef, donnez-leur quelqu'un à suivre. Mais les gens bien, les gens capables, les gens normaux qui arrivent à se gérer, de quoi ont-ils besoin de plus? Ont-ils besoin d'une religion? Ont-ils besoin d'un Dieu? Ont-ils besoin d'une Bible pour leur dire quoi faire? Vous entendez ce langage aujourd'hui? Il est dans l'air du temps. Cette idée selon laquelle finalement, ce que j'ai, ce que je suis, c'est parce que je l'ai gagné. La belle voiture que j'ai travaillé pour et je l'ai achetée. Le métier que j'ai, la position sociale que j'ai, j'y ai travaillé. C'est pas venu tout seul. Comme ces gens qui pensent que tout va leur tomber tout cuit dans la bouche. Non, j'ai travaillé, ma famille a travaillé pour arriver à ce que nous sommes et à ce que nous avons. Et nous pensons que finalement, nous sommes bons parce que nous ne faisons pas le mal. En fait, je suis bien et je suis bon à cause des choses que je fais. Je me suis construit ce personnage et le monde d'aujourd'hui travaille à cela. Se construire un personnage, un beau personnage, un personnage politiquement acceptable, socialement recevable, religieusement impeccable. Pour que les gens disent « Ah ça, c'est un gars bien, c'est un exemple. Regarde mon fils, tu vois ce monsieur-là, ben, tâche de faire comme lui. » Le problème, c'est que l'Écriture sainte, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ne voit pas les choses comme nous les voyons aujourd'hui. La perspective de Dieu et celle des hommes est fondamentalement différente. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, disait Dieu, et mes voix ne sont pas vos voix. » Et quant à moi, je préfère malgré tout m'aligner sur le plan de celui qui est le Tout-Puissant. Dans le psaume 143, au verset 2, se trouve un élément de la perspective de Dieu. Psaume 143, verset 2, va nous remettre à notre place. Dès le verset 1, il est dit « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui se disent « Mais moi, je suis une bonne personne. Reconnaissez-le donc enfin. » La Bible dit « Aucun vivant n'est juste devant toi. » Le Nouveau Testament nous dit la même chose. Regardez avec moi dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Épître aux Romains, au chapitre 3. À plusieurs reprises dans ce chapitre, l'apôtre Paul rappelle cette grande vérité des Écritures. Il va citer à partir du verset 10 l'Ancien Testament. Romains chapitre 3, verset 10, et il dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Finalement, la parole de Dieu nous remet tous, grands ou petits, qui que nous soyons, prétentieux ou humbles, tous, dans la même situation, nous sommes tous des pécheurs. Et la mauvaise nouvelle est encore pire, parce que dans cette même épître aux Romains, au chapitre 6, deux, trois pages plus loin, il nous est dit au verset 23 une vérité tranchante et incontournable. Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et nous voilà non seulement tous dans le même bateau en tant que pécheurs, mais nous voilà tous dans la même direction, la mort. Et quand il est question de la mort, il n'est pas simplement question de cette mort que nous connaissons, qui est le sommeil de la mort, mais la destruction finale, éternelle, définitive. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Écritures sont là justement pour nous présenter le plan de sauvetage pour l'humanité hors de cette situation-là. Dieu ne nous met pas devant la réalité pour nous laisser désespérer, il nous met devant la réalité pour que nous aspirions au plan de sauvetage, pour que nous prenions conscience à quel point nous avons besoin d'un médecin et d'être soignés, et d'être guéris, d'être sauvés. La bonne nouvelle que toutes les Écritures essayent de présenter d'une façon ou d'une autre sous différents aspects, c'est que ce plan de sauvetage, pour tous les hommes, il réside dans Jésus-Christ, le Sauveur, justement. Nous connaissons tous ce texte, celui peut-être que les chrétiens connaissent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan du salut réside donc en une personne, pas dans une chose à faire, pas dans un lot à gagner. Le plan de sauvetage réside dans une personne, Jésus. Devant cette réalité, une question ressort, qui est la question de tous ceux qui se disent « Mais enfin, s'il y a un plan de sauvetage, comment puis-je y accéder et le recevoir et en bénéficier ?» Alors regardez avec moi dans l'Épître, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. L'apôtre Paul s'était trouvé en prison. Un cataclysme avait détruit la prison dans laquelle il se trouvait selon l'action de Dieu. Et le gardien de la prison réalise la situation. Et l'apôtre Paul va répondre à sa question. Actes chapitre 16, lisons au verset 29 ce qu'il est écrit. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils leur annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Que faut-il faire pour être sauvé? Paul ne vient pas avec une liste de choses à faire, une liste de sacrements à remplir pour être sauvé. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus. Le plan du salut ne réside donc pas dans des choses à faire, à gagner selon la mentalité de ce siècle-ci, mais réside dans une relation à créer avec une personne. Crois au Seigneur Jésus. Et je ne peux pas croire dans quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas non plus croire dans quelqu'un que je n'aime pas. J'ai 10 000 dollars dans ma poche. Ne m'attaquez pas, c'est pas vrai. Mais j'ai 10 000 dollars dans ma poche. Est-ce que je vais demander à quelqu'un qui passe dans la rue, écoutez, gardez ce paquet pour moi 5 minutes, je reviens tout de suite? Je ne le connais pas. Je confierai ça à quelqu'un que je connais, à quelqu'un en qui j'ai confiance. Et je n'ai confiance que dans les gens que j'aime. Et ce serait autrement avec Dieu? Crois au Seigneur Jésus. L'apôtre Paul ici fait comprendre que le salut n'est pas dans le faire d'abord. Il est d'abord du ressort de l'être. Le salut, c'est d'abord une relation à créer avec une personne, avec le Christ. Et puis Jésus explique, dans la mesure où cette relation est forte, puissante, intime, les fruits vont naître naturellement. Regardez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Jésus parle des vrais et des faux. Car aujourd'hui, comme à cette époque-là, il y a des vrais et il y a des faux. Comment reconnaître les vrais des faux? Jésus va donner le mode d'emploi. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, Nous lirons à partir du verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Comment allons-nous savoir ? Regardez les fruits. Ce sont des indications de la qualité de l'arbre. Ainsi, nos actions ne nous sauvent pas. Elles sont une indication de ce que nous avons à l'intérieur. En réalité, l'Évangile nous fait comprendre que le salut ne réside pas dans le fait que nous soyons une bonne personne qui ne fait pas de mal en apparence, et la perdition dans le fait que nous soyons une mauvaise personne qui n'arrive pas à faire le bien. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, dit « Il y a une loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Nous sommes donc tous dans cette même situation. Alors il y a une chose par laquelle il faut commencer, et je vous propose de le lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Nous lirons au verset 28. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Vous voyez la question ? La question correspond tout à fait à notre mentalité très humaine. « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être bien et suffisamment bon pour faire les œuvres de Dieu ?» Déjà à son temps, cette même question était posée. Réponse de Jésus, « Non, mon ami, ce n'est pas du ressort du faire. Crois, établis une relation de confiance profonde avec celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. » Et quand cette relation de confiance profonde sera établie, il agira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tu porteras, autrement dit, naturellement, les fruits d'une relation de confiance et d'amour avec ton Sauveur. Voilà un paysage tout à fait différent par rapport à celui que nous voyons décrit dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que le baptême dont nous allons être témoins aujourd'hui prend tout son sens. Regardez avec moi dans l'Évangile de Marc, ce qu'il est écrit dans le dernier chapitre, chapitre 16, au verset 15. Une des dernières paroles que Jésus adresse à ses disciples, c'est un mandat, un envoi missionnaire, une responsabilité qui s'exprime de la façon suivante. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15. « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est cette relation de confiance et d'amour qui fait toute la différence. Que faut-il annoncer au monde entier et à la création tout entière d'après Jésus ? C'est que nous sommes sauvés de cette situation catastrophique dans laquelle nous sommes grâce à une relation de confiance et d'amour avec le Sauveur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est par conséquent le symbole par lequel je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. C'est le symbole par lequel j'accepte de faire alliance avec lui. L'apôtre Jean, sur la fin de sa vie, écrivait dans son épître une chose extraordinaire. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Le baptême, c'est le moyen par lequel nous acceptons que Jésus-Christ devienne notre avocat. Et quel meilleur avocat pouvons-nous avoir que celui qui a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés ? Le baptême, c'est ce moment dans lequel je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est le moment où, plongé dans l'eau, je suis l'exemple du Christ. Christ est mort pour moi. Eh bien, moi, symboliquement, j'accepte à ne plus être seul dans ma vie, mais à faire alliance avec lui, à mourir à moi-même, pour reprendre cette expression. à faire alliance avec lui pour que mes plans et ma vie soient teintés de la présence des choix et de la mentalité de Jésus-Christ. Le baptême, c'est ce moment où je termine une vie passée, où j'étais tout seul pour me débrouiller, pour être sauvé, et où j'accepte d'être pardonné et sauvé par le seul Sauveur qui peut me donner la vie éternelle, Jésus-Christ. Maintenant, il nous faut reprendre les textes que nous avons lus tout à l'heure parce que nous les avons lus à moitié, ce qu'il ne faut jamais faire. Vous me pardonnerez en tout cas cette hérésie. Épître aux Romains où nous étions tout à l'heure, revenons dans cette épître. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Certes, nous sommes tous coupés de cette relation avec Dieu. Un petit peu plus loin, au chapitre 6 de ce même livre, au verset 23, il était dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Mais la phrase continue, elle ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous confronte à la réalité, mais il nous confronte aussi à cette réalité qu'il y a un salut gratuit, une vie éternelle à la portée de quiconque croit en lui. Le baptême est l'expression de cette relation de confiance et d'amour avec un Dieu qui va jusqu'à la croix pour nous sauver. On comprend à partir de ce moment-là que le baptême n'est pas quelque chose que je peux imposer à quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire sur un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Le baptême est quelque chose de personnel entre moi et Dieu. Le baptême n'est pas quelque chose que je dois faire parce que j'ai tel âge, ou parce que j'appartiens à telle famille, ou parce que je suis né dans tel pays où cette religion domine. Le baptême, c'est la reconnaissance d'une relation personnelle avec Dieu qui demande de comprendre le plan de Dieu, qui demande d'être suffisamment mature pour réaliser à quel point nous avons besoin d'un Sauveur et de le recevoir et de l'accepter. Il est donc nécessaire de connaître le plan de Dieu pour recevoir le baptême d'une façon intelligente et selon son plan, en sachant ce que l'on fait, en recevant le Christ comme un Sauveur tel qu'il est décrit dans les Écritures et non pas tel qu'on va le faire dans les films, dans le cinéma d'Hollywood. Le Sauveur des Écritures, pas le Jésus superstar. Ainsi, le baptême est un symbole. Cette eau n'est pas magique. Regardez ce que l'apôtre Pierre écrit à ce sujet-là dans sa première épître. Première épître de Pierre, chapitre 3. L'apôtre Pierre ici compare le déluge et ceux qui l'ont traversé avec cette image du baptême. Et il est dit au verset 21... Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience. Non, le baptême, ce n'est pas pour se laver. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand donc est-ce que j'ai bonne conscience ? J'ai bonne conscience quand je sais ça et que je fais ça. J'ai bonne conscience quand il y a harmonie entre ce que je sais et ce que je fais. Le Seigneur me propose d'agir selon ma connaissance. Il m'a révélé ma situation. Il m'a montré qu'il y a un Sauveur en Jésus-Christ qui est à ma portée. Et il me propose de le recevoir gratuitement. Le baptême dont nous allons être témoins aujourd'hui est un symbole. Le symbole de la mort à une vie passée, où l'on était seul pour se débrouiller, pour essayer de trouver le moyen d'être une bonne personne, pour être sauvé ou sauvable. C'est la fin de cette recherche de faire pour être sauvé. C'est le début d'un cheminement où l'on veut être intime dans une relation avec le Sauveur, relation de confiance et relation d'amour. Et c'est dans ce lien que le Seigneur nous sauve. Autrement dit, le baptême, c'est le moyen de raccrocher avec Dieu. Et comme un fil qui a été coupé, il est raccommodé par le baptême en Jésus-Christ. Et le courant passe de nouveau. Le Seigneur Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour tous les êtres humains. Ne serait-ce pas merveilleux que ce sacrifice que Jésus a fait puisse au moins servir à tout le monde? Un salut gratuit, y a-t-il encore des gens aujourd'hui qui n'en veulent pas et qui préfèrent dire « Non, pour moi, je préfère mourir, disparaître, que de vivre toujours dans un monde où le mal, le péché, la mort n'existent plus, le plan originel de Dieu, finalement ?» Y a-t-il encore des gens qui ne veulent pas cela? Y a-t-il encore des gens qui préfèrent rejeter Dieu et vivre dans un monde où la souffrance, la violence, la misère augmentent? C'est ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui. C'est ce que de sa part je vous présente. Un salut gratuit pour des enfants qu'il aime, pour des enfants pour qui il a donné sa vie et à qui il offre aujourd'hui encore d'être sauvés en son nom. Amen.